Bien, donc, ce matin, nous serons dans le livre d'Ézéchiel. Je vous invite à trouver ce livre, Ézéchiel. Alors, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel. Donc, si vous voyez Ésaïe, vous n'y êtes pas encore. Si vous voyez Daniel, vous êtes allé trop loin. Donc, c'est un peu entre les deux. Ézéchiel et bon, Ézéchiel c'est un livre quand même assez long, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes à le trouver. Le jour où on parlera des petits prophètes, ben là c'est un peu plus complexe. Mais là, livre d'Ézéchiel. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, mais avant de faire cela, j'aimerais poser une question, parce que je pense que ceci nous est arrivé tous. Vous est-il jamais arrivé de mal reconnaître quelqu'un, de voir quelqu'un et dire « Ah tiens, c'est un tel, c'est une telle », et en réalité non, vous vous êtes trompé, c'était quelqu'un qui lui ressemblait, qui avait une apparence similaire. Et moi, je me souviens, pas très longtemps après mon arrivée ici en France, de temps en temps, je voyais des gens dans la rue, dans d'autres contextes, et je me dis, cette personne a l'air tellement comme quelqu'un que je connais, soit un de mes amis, une connaissance aux États-Unis. C'était assez bizarre, là, en France, de trouver des gens qui ressemblaient, au moins à mes yeux, pas mal à des personnes que je connaissais. Et puis, je me souviens d'un incident il y a pas mal d'années dans notre église, dans l'église qu'on fréquentait aux États-Unis. Je descendais de la chorale et dans notre église, on avait un moment où, un peu au milieu du culte, on se saluait. C'était pas avant, mais c'était un peu au milieu. Et ce jour-là, il y avait un homme. C'était un des fils du pasteur, qui portait le même costume que mon père ce jour-là. Et il avait le dos tourné à moi, et moi je descendais. Là, il était au premier rang, et moi dans mon esprit, sans vraiment réfléchir, j'ai vu de derrière, il ressemblait quand même de derrière pas mal comme mon père, à peu près la même taille. Et donc moi je vais pour l'embrasser, comme mon père. Et puis c'était en le faisant, je me suis rendu compte, c'est pas mon père, c'est le fils du pasteur que j'apprécie beaucoup. On avait une bonne relation et tout, mais voilà, c'était pas mon père. Donc je me suis trompé, je croyais que c'était une personne, et non, c'était quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, on va parler un peu de cela, parce qu'on va parler pendant quelques minutes sur cette idée de pouvoir reconnaître Dieu. Parce que si vous prenez le livre d'Ézéchiel, c'est quand même un livre où Dieu veut que son peuple le reconnaisse. Et pour nous aujourd'hui, il nous faut avoir la capacité de reconnaître Dieu, bien sûr, non pas avec les yeux physiques, parce que Dieu ne peut pas être vu par les yeux physiques, mais autour de nous, par la foi, à travers des choses que nous allons voir. Et donc, en premier, il y a quand même pas mal de versets qui parlent de ceci, mais un des premiers dans ce livre, je vous invite, parce qu'on va voir un ensemble de textes ce matin dans ce livre, Ézéchiel chapitre 6 et le verset 7. Ézéchiel chapitre 6, verset 7, où nous voyons « Les morts tomberont au milieu de vous ». Là, tout de suite, on va se dire « Oh là, ça commence bien, c'est triste ça, c'est pas beau. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est cette phrase-là qui va revenir au moins 26 fois dans ce livre. Cette phrase, vous saurez, certaines traductions disent « vous reconnaîtrez », mais il y a cette idée de reconnaître, de savoir que je suis l'Éternel. Et c'est quand même frappant en lisant ce livre que Dieu voulait que son peuple le reconnaisse. Et cela doit déjà être une source d'encouragement pour nous qu'il est possible de reconnaître Dieu, de savoir qu'il est là, qu'il travaille. Parce que quelques-uns pourraient dire, Dieu, on ne le voit pas. Il est invisible, ce qu'il fait, parfois on s'en rend compte, mais parfois non. Est-ce que nous pouvons réellement savoir Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment savoir quand il travaille? Est-ce qu'on peut vraiment le reconnaître? Est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'il est là? Et dans des moments de doute, oui, on peut se poser cette question. Satan voudrait qu'on se la pose. Mais ici, dans ce livre, comme on va voir, oui, cela est possible. Et justement, ça doit être une grande source de réconfort. Et comme si cela n'était pas assez, on ne le fera pas ce matin, mais je vous encourage à aller lire la première épître de Jean. Parce que la première épître de Jean, en grande partie, a été écrite pour justement encourager les chrétiens qui peuvent savoir, avoir l'assurance, cette certitude, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et donc, cette certitude qui est là, et Dieu voulait, dans l'Ancien Testament, donner cette certitude à son peuple. Dans le Nouveau, il renouvelle cela. Et encore aujourd'hui, Dieu veut que notre cœur soit fortifié avec cette idée que, oui, il est possible d'avoir la certitude que nous pouvons reconnaître Dieu là où il travaille. Là où il se présente à nous de différentes façons. Bien sûr, nous pouvons faire obstacle à cela. Le peuple d'Israël, à travers son péché, à travers son laxisme, à travers son éloignement de Dieu, est tombé dans l'endurcissement. Est tombé dans l'aveuglement et dans un sens a perdu cette capacité de pouvoir reconnaître quand Dieu travaillait, quand Dieu se présentait à lui. Et c'est pour cela que Dieu est allé et est obligé ici de prendre des mesures que certains pourraient qualifier d'extrêmes. Mais c'est parce qu'il voulait que son peuple reconnaisse. Et il dit, vous saurez, vous voyez la certitude là. C'est moi, je vais faire ça, et peut-être, non, vous saurez. Comme j'ai dit, cette phrase qui revient au moins 26 fois dans ce livre, Dieu, il a cette certitude que son peuple le reconnaîtra. Et la question à se poser aujourd'hui, c'est, suis-je capable aujourd'hui de reconnaître Dieu? Suis-je capable de savoir et avoir cette certitude, oui, je vois Dieu travailler? Je vois Dieu là, à travers quelque chose que quelqu'un dit, à travers quelque chose qui se passe, on dit, oui, là, je suis capable de voir la main de Dieu. Avons-nous cette capacité? Déjà, il faut connaître Dieu personnellement, c'est-à-dire avoir une relation avec lui. Et puis, il faut être à son écoute. Dieu a envoyé ses prophètes, entre autres Ézéchiel, mais bien d'autres. À plusieurs reprises, il va dire, j'en ai envoyé plein, de bonheur, sans me lasser, je les ai envoyés, mais le peuple n'a pas écouté. Le peuple a refusé. Donc, le problème n'était pas du côté de Dieu. Dieu a tout fait. Mais c'est le peuple qui a refusé. C'est le peuple qui a fait obstacle. Et il faut s'examiner pour savoir, est-ce que moi je fais obstacle à ce que Dieu veut révéler dans ma vie? Est-ce que moi je fais obstacle à Dieu qui veut se révéler dans ma vie et autour de moi? Donc déjà de savoir qu'il y a cette possibilité de reconnaître Dieu. Dieu n'est pas un Dieu distant. Le monde voudrait nous faire croire que s'il y a un Dieu, s'il a créé toutes choses, il est bien plus occupé avec d'autres choses, et il est parti, il est lointain, il a mis en place tout l'univers, mais après il s'est dit, débrouillez-vous. Non, Dieu est là, Dieu se révèle. S'est révélé dans ma parole et continue de se révéler aujourd'hui. Et il veut qu'on sache le reconnaître, il veut qu'on sache que c'est lui qui travaille. Alors, un peu plus loin dans le chapitre 11, nous voyons un premier aspect. Chapitre 11, les versets 9 à 12, permettez-moi de les lire, Ézéchiel chapitre 11, versets 9 à 12. « Je vous ferai sortir du milieu d'elle. » Alors, pour donner le contexte de Jérusalem, la ville où Israël croyait être en sécurité. Mais Dieu dit « Non, je vous ferai sortir du milieu d'elle, de la ville de Jérusalem. Je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël. Encore une fois, ça semble comme une mauvaise nouvelle. Et ça l'est. Jugement, la mort, la destruction. Et là, à la fin de verset 10, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » La ville ne sera pas pour vous une chaudière, vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. Et cette image pour dire « Nous serons en sécurité, nous avons cette place privilégiée. » Dieu dit « Non, 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 non. » Fin de verset 11, « C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. » Verset 12, « Vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. » Donc on voit, Israël a fait obstacle. Dieu voulait se révéler à Israël, mais Israël a fait obstacle. Et dans ces versets, nous voyons ce premier aspect, comme j'ai dit, nous pouvons reconnaître que Dieu travaille parce que Dieu juge et il reprend. Et nous avons tellement parlé de l'amour de Dieu, nous avons tellement parlé des bienfaits de Dieu, de sa protection, de sa provision, de sa bonté, de ses compassions, de sa miséricorde. Si on ne pouvait prêcher que sur ça, bah, ce serait formidable, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit la réalité des choses. Oui, Dieu est amour et Dieu aime faire du bien. Mais en même temps, Dieu est un Dieu de justice. Et ici, il dit à son peuple, ben, j'ai tout fait pour vous. Je vous ai donné mes commandements. Je vous ai donné mes lois. Je vous ai envoyé mes prophètes. Je vous ai donné mes ordonnances. Et verset 12, il dit, vous ne les avez pas suivis. Vous n'avez pas pratiqué ces lois. Ils ont imité les nations autour. Et à cause de cela, Dieu est obligé de juger et reprendre son peuple. Et tout comme un enfant n'apprécie pas le jugement, c'est-à-dire le châtiment, être repris, quel enfant aime être repris? Ben, si jamais un enfant dit « Oui, je veux des fessées, je veux être repris », ben, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant, n'est-ce pas? Ce n'était jamais mon cas, parce que être repris, être corrigé, ça fait mal. Et pourtant, Dieu est obligé par un moment de nous reprendre et de nous corriger. Il nous juge, et parfois, ça fait mal, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu nous juge, lorsque Dieu nous corrige, quelle est notre première réaction? 1. Peut-être Dieu, qu'est-ce que tu fais? 2. Peut-être je ne mérite pas ça. 3. Ben, peut-être Dieu, pourquoi moi? Moi, je vis pour toi, Seigneur, mais tu vois telle ou telle autre personne, regarde tout ce que eux ils font. Israël aurait pu dire, mais Dieu, tu vois toutes ces nations autour, leurs pratiques abominables, tout ce qu'ils font, leur culte païen et tout. Ben, Dieu, juge-les. Nous sommes quand même ton peuple. Et pourtant, Dieu dit, non, non, non. Je vous juge parce que vous vous êtes éloigné de moi. Et Dieu, dans son jugement, lorsqu'il est obligé de nous juger et de nous reprendre, ben, là, c'est toujours avec justice. Et aussi, c'est toujours avec équité. Dieu dit ici, fin de verset 12, vous n'avez pas suivi les ordonnances, vous n'avez pas pratiqué les lois, vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Et du coup, à cause de leur désobéissance, Dieu les juge en conséquence. Dieu ne va jamais trop loin dans son jugement. Et Dieu ne va jamais en dessous, n'est-ce pas? Trop souvent, nous pouvons avoir des pensées et les gens accusent Dieu d'aller trop loin. Rares sont les fois où les gens disent, ben, Dieu, tu n'as pas fait assez. Tu n'as pas jugé assez. Non, très souvent, c'est, ben, Dieu, là, tu es allé trop loin. On ne méritait pas cela. Mais ici, Dieu dit, ben, vous avez enfreint mes lois. Vous ne les avez pas respectés. Vous êtes allés après d'autres idoles, après des idoles, des autres nations. Et pour cela, je te juge, je te reprends, mais bien sûr avec justice, avec équité. Et au milieu de la correction, celui qui est corrigé ne croit jamais que c'est équitable, n'est-ce pas? Un enfant qui se fait corriger pense toujours que ses parents vont trop loin, n'est-ce pas? Mais Dieu dit non, je juge de manière parfaite, non pas comme les hommes. On voit ce que donne la justice des hommes. Et lorsque nous voyons que Dieu y juge et y reprend, et que dans notre vie, il fait cela, c'est pas simplement pour les autres, c'est pas simplement Dieu, tu vois ce que cette personne est en train de faire, reprends cette personne, fais quelque chose. C'est pas simplement pour les autres, c'est pour nous aussi. Et justement, lorsque nous savons reconnaître que Dieu juge et que Dieu reprend, là, nous commençons à savoir que c'est Dieu qui agit. Bien sûr, Dieu se sert des uns et des autres. Nous sommes appelés à reprendre nos frères et sœurs sur la base de la parole. Mais c'est Dieu qui le fait. En réalité, c'est lui qui est là. Et lorsque nous pouvons avoir la capacité de reconnaître Dieu, lorsque nous reconnaissons que c'est lui qui juge et c'est lui qui reprend. Alors aussi, nous pouvons reconnaître que c'est Dieu qui travaille parce que sa parole s'accomplit. Et on n'a pas le temps ce matin, mais un ensemble de versets qui parlent à la fois pour le bien et pour le mal, dans ce sens pour la parole de Dieu. C'est-à-dire, tous ces jugements s'accomplissent, mais toutes ces bénédictions s'accomplissent aussi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament. Et Dieu a fait des promesses à Ézéchiel. Et Dieu s'est servi d'Ézéchiel comme signe devant les nations. Et en lisant le livre d'Ézéchiel, on a un peu mal pour Ézéchiel. Parce que Dieu lui demande de faire des choses qui sont quand même très bizarres. J'essaie de me mettre à la place d'Ézéchiel et je me dis, mais comment les gens ils ont dû penser d'Ézéchiel? Ils le voyaient, il était certainement connu comme ce fou là dont on se tenait un peu éloigné. Les enfants n'allaient pas par là. Là, c'est le fou, le fanatique. Les choses qu'il devait faire étaient quand même assez bizarres. Et pourtant, cela venait de Dieu. C'était pour dire telle ou telle chose va arriver. La chute de Jérusalem. La dernière partie de la déportation, entre autres. Et toutes ces choses se sont réalisées. La parole de Dieu s'accomplit. Lorsque Dieu dit qu'il va juger, il va juger. Et le jugement arrivera. Mais aussi, à travers Ézéchiel, Dieu annonce la restauration. Et Dieu promet de faire du bien. Et à chaque fois que Dieu parle, Dieu, sa parole s'accomplit. Et ça doit être une grande source d'encouragement pour nous. Parce que lorsque nous disons des choses, ça ne s'accomplit pas toujours. Nous avons des souhaits, des avis, des choses qu'on voudrait faire, des désirs, mais ça ne s'accomplit pas toujours. Et nous pouvons menacer. On peut dire, oui, si tu fais ça, attention, ou j'ai le projet de faire telle ou telle chose qui est bien, mais nous n'arrivons pas. Mais Dieu, lui, il est fidèle dans toutes ses promesses, et sa parole s'accomplit. Et tout ce qu'il a révélé à Ézéchiel concernant Israël à cette époque, s'est accompli. De la destruction complète de Jérusalem, qui allait venir quelques années après ces prophéties, jusqu'à tout le bien que Dieu a prophétisé sur son peuple, tout s'est accompli. Et même allant jusqu'à la mort de la femme d'Ézéchiel, à un moment donné, Dieu dit, je vais t'enlever celle qui fait les désirs de ton cœur. Et quelque temps après, la femme d'Ézéchiel meurt. Donc Dieu le dit et cela se fait. Et lorsque nous savons reconnaître que la parole de Dieu s'accomplit, nous commençons à reconnaître, oui, Dieu. Et les promesses que Dieu fait dans la parole sont pour nous. Et comme dit la parole, pour nous, pour nos enfants. Ça ne s'arrête pas avec nous. Et les promesses que Dieu fait en ce qui concerne le salut, ben, sont pour nous. Dieu dit, si vous vous repentez de vos péchés et que vous croyez au nom de Jésus-Christ, si on le confesse de sa bouche, si on croit dans son cœur, on est sauvé. C'est une promesse de la part de Dieu. Et si nous croyons à cela, ben, nous sommes sauvés. Et peu importe ce qu'on ressent, nous sommes sauvés. Dieu pourvoit, Dieu promet de pourvoir à nos besoins, le croyons-nous. Dieu promet de nous diriger dans toutes choses, le croyons-nous. Dieu promet de donner son Saint-Esprit à chaque personne qui se convertit. Si nous sommes convertis, ben, avons-nous le Saint-Esprit ? Ben oui, qu'on le ressent ou pas, nous l'avons. Et Jésus a promis, Jean chapitre 14, de nous préparer une place au ciel auprès de son Père. Le voyons-nous ? Non, pas encore. Mais il a dit, et sa parole est certaine. Et ce que Dieu dit s'accomplit. Jésus a aussi, je bâtirai mon Église. Et malgré toutes les attaques du monde, toutes les attaques de l'ennemi, Dieu est en train de construire son Église. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était peut-être hier ou avant-hier, à l'ouest, dans l'État d'Oregon, où justement quelqu'un est entré dans une école, et ben, tiré sur les gens, mais avant de tirer, il a posé cette question, êtes-vous chrétien ? Et il n'a tiré que sur ceux qui répondaient oui. Vous imaginez ? Et là, ben, parce qu'on est chrétien, parce qu'on croit en Dieu, oui, on subit cela. Mais Dieu, est-ce que cela fait que Dieu a failli à ses promesses ? Non. Non. La parole de Dieu s'accomplit. Et Ézéchiel devait reconnaître Dieu là-dedans. Parce que Ézéchiel n'a pas vu tout l'accomplissement de tout ce que Dieu disait. Nous n'avons pas lu les versets, mais ce livre nous apprend que Ézéchiel se trouvait à Babylone. Ézéchiel avait déjà été emporté dans la déportation, et pourtant beaucoup de ce qu'il disait, c'était pour Jérusalem. Des centaines, voire des milliers de kilomètres à l'ouest. Et Dieu lui donne des prophéties, Dieu lui révèle des choses que Ézéchiel n'allait pas voir s'accomplir de son vivant. Et pourtant, il le fait parce qu'il savait que la parole de Dieu est vraie, que la parole de Dieu s'accomplit. Et Dieu annonce ces choses pour que son peuple reconnaisse que sa parole s'accomplit. Sa parole est véridique. Et nous ne devrions jamais la remettre en question. Comme Satan a fait dès le début, Dieu a-t-il réellement dit ? La réponse d'Ève aurait dû être « Mais absolument, Dieu a dit cela !» Et pourtant non, et vous et moi, on aurait fait exactement pareil à sa place. Mais Dieu ici, il révèle ces choses et il accomplit sa parole. Pourquoi ? Non pas parce qu'il est méchant, non pas parce qu'il prend plaisir à punir, non pas parce qu'il n'a rien d'autre à faire, non. Il accomplit sa parole pour qu'on sache, pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Et Ésaïe avait ce même thème. Ésaïe chapitre 40 jusqu'à chapitre 45, grand exposé sur Dieu. Et une des choses que Ésaïe va relever par la révélation de Dieu, c'est que les idoles, ben, sont totalement incapables de tout. Ne peuvent rien faire. Ne peuvent pas prophétiser, ne peuvent pas accomplir quoi que ce soit, ont besoin d'être portés si ici et là, et nous voyons que c'est seulement Dieu qui prédit et puis qui accomplit. Dieu est là et sa parole s'accomplit à la fois dans ses jugements, mais aussi dans le bien qu'il fait. Parce que Dieu n'a pas annoncé que des jugements contre Israël. Allez avec moi un peu plus loin dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, et après on verra quelques versets dans le chapitre 37. Ézéchiel chapitre 36, versets 8 à 11, qui nous disent « Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bienfaits qu'autrefois, et là, vous saurez que je suis l'Éternel. » Et ce passage tellement fort, tellement encourageant, à la fois pour Israël, mais aussi pour nous aujourd'hui. Dieu promet de restaurer, Dieu promet de faire du bien. Et puis à la fin de verset 11, cette phrase tellement belle, « Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. » Et cela est tellement extraordinaire lorsque nous pensons à tout le bien que Dieu avait déjà fait pour Israël. Il avait fait sortir Abraham du pays des Chaldéens. Il avait installé au pays des Canaan. Dieu avait sorti Israël d'Égypte par des miracles qu'on n'avait jamais vus auparavant et qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent. Grande délivrance, la traversée de la mer Rouge, même les 40 ans dans le désert, Dieu a pourvu la conquête du pays promis, toute la prospérité sous David, sous Salomon, et toute la patience dont Dieu a usé envers Israël pendant ces quelques centaines d'années avant la déportation. Dieu avait déjà fait tellement de bien à son peuple, étalé, certains pourraient dire, jusqu'à l'extrême. Et là, Dieu dit, je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Imaginez-vous la quantité de bien ça devait être. Et imaginez Ézéchiel quand il entend cela. Ézéchiel, de la part de Dieu, entend, oui, je ferai plus de bien qu'autrefois. Je vais restaurer. Il y aura de nouveau des hommes dans le pays d'Israël. Il y aura de nouveau des récoltes, des semences, des moissons. Alors que, à ce moment-là, Jérusalem se trouvait en ruine. Le peuple était dispersé, en grande partie emmené en captivité en Babylone. Mais ici, Dieu promet de restaurer, parce qu'il est Dieu. Et lorsque nous voyons que Dieu restaure, là nous commençons à voir Dieu, nous commençons à reconnaître Dieu. Oui, Dieu est obligé de punir, Dieu est obligé de reprendre, Dieu est obligé de juger pendant un moment. Mais sa colère ne dure pas à jamais. Sa colère aura une fin. Et ici, même devant tous les péchés d'Israël, tous leurs égarements, leur éloignement de Dieu, même là, Dieu a promis de les restaurer. Et puis, dans le chapitre suivant, chapitre 37, cette idée de restauration revient. Ici, au chapitre 37, c'est cette vision de la vallée pleine d'ossements. Et au verset 4 jusqu'au verset 6, Dieu va dire à Ézéchiel, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Dieu restaure, même d'un point où l'homme va dire c'est impossible. Déjà un cadavre, l'homme entièrement incapable de faire quoi que ce soit pour faire revivre ce cadavre. Mais là, c'est encore plus loin. C'est que des ossements. Ben, qu'est-ce que l'homme peut faire là? Ben, rien. Tout est perdu au niveau des hommes. Mais Dieu promet de restaurer et Dieu promet de faire ce que l'homme est incapable de faire. Et Dieu promet cela pour son peuple. Et dans ce sens, Dieu promet cela pour vous et pour moi. Non pas exactement de la même manière qu'Israël, il ne promet pas de nous donner une terre et de restaurer notre place en ce sens. Mais Dieu promet de nous restaurer en lui. Et lorsque nous comprenons que Dieu promet de restaurer, lorsque nous comprenons que Dieu est là et qu'il ne nous a pas lâchés, à ce moment-là, nous comprenons et nous commençons à comprendre qui est Dieu. Nous commençons à reconnaître sa main. Et ceci est tellement important, surtout de nos jours, parce que tout ce qui est autour de nous veut nous pousser à ne pas reconnaître Dieu. La science, malgré tous ses progrès, a ce grand tort de pousser les gens à nier de plus en plus l'existence de Dieu, et même parmi les chrétiens, de dire ben, les miracles de la Bible, ben, c'était simplement des phénomènes naturels que l'homme ne comprenait pas à l'époque. Que certaines choses dont la Bible parle, ben, maintenant avec la technologie avancée que nous avons aujourd'hui, que ce soit oui dans la technologie, la médecine, autres, ben, maintenant on arrive à comprendre comment cela a pu se faire. C'était pas vraiment des miracles, des gens crédules à l'époque le croyaient, mais nous, gens civilisés, 21e siècle, nous comprenons mieux. Non. Dieu annonce une restauration et il le fera. Dieu promet de faire des choses. Dieu nous fait des promesses aujourd'hui. Et lorsque nous reconnaissons ces promesses comme venant de sa part, à ce moment-là, nous reconnaissons Dieu. Nous savons que c'est Dieu. Et pourtant, la tentation est grande de dire bah, « Le gouvernement est trop puissant. Mon employeur, dans un sens, a le contrôle sur moi. Toutes ces circonstances, ma famille, mes amis, mon voisinage, et on peut mettre tout ce qu'on veut, font que, là, je me confie plus et je me laisse plus influencer par cela, et je cours le risque, en tant que chrétien, d'oublier que Dieu est là. Et je commence à avoir les yeux peut-être un peu flous. Et je commence à ne plus voir très clair et ne plus pouvoir vraiment voir Dieu. Et Israël était devenu comme cela. Israël, à cause de tous ses péchés, à cause de son éloignement de Dieu, ne savait plus reconnaître Dieu. Et Dieu dit, je vais intervenir, je vais me révéler à eux pour qu'ils sachent que c'est moi. Ce ne sont pas des idoles, ce ne sont pas des phénomènes naturels, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est personne d'autre que moi. Et pour cela, il juge et il reprend. Il accomplit sa parole dans tous ses aspects et il promet de restaurer. Et pour nous aujourd'hui, est-il possible que, avec la multiplicité de nos différentes activités, avec notre vie dans le monde, avec tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que nous subissons, que nous soyons devenus un peu aveugles dans ce domaine, que notre vision soit devenue un peu floue? Est-il possible qu'on ait besoin de revenir à la parole pour pouvoir reconnaître Dieu quand il travaille? Le reconnaître quand il nous reprend. Même si cela fait mal, de dire oui Seigneur, cela vient de ta part. De ne pas dire ben, pourquoi moi, pourquoi maintenant, Dieu, tu n'aurais pas pu attendre. Ça m'aurait arrangé si tu faisais cela à un autre moment. Non, de reconnaître sa main, qu'il est juste, qu'il agit toujours avec équité. De se souvenir que sa parole s'accomplit toujours. Oui, coûte que coûte, peu importe, la parole de Dieu s'accomplit. Et puis, il promet la restauration. Peut-être ça ne semble pas comme ça va arriver aujourd'hui, et peut-être on ne le verra même pas de notre vivant. Mais un jour, nous serons avec le Seigneur. Un jour, nous serons avec Dieu. Et Dieu va restaurer. Il peut nous restaurer physiquement, oui, quand nous sommes malades, quand nous faisons face à certaines choses. Il peut nous restaurer, et il va nous restaurer spirituellement. Dieu veut le faire. Comme il promet, et il a promis de le faire pour Israël, il y a 2500 ans, presque 2600 ans, bah, Dieu promet de faire la même pour nous aujourd'hui. Et de se poser cette question, eh ben, est-ce que peut-être j'ai du mal à reconnaître Dieu? Est-ce que j'attribue à Dieu peut-être des choses qu'on ne devrait pas lui attribuer? Est-ce que je manque de lui attribuer des choses que je devrais? Est-ce que j'attribue aux hommes ce qui devrait être attribué à Dieu? Est-ce que je suis arrivé au point où Dieu doit prendre des mesures extrêmes pour me réveiller, pour enlever les écailles qui sont devant mes yeux, comme il a fait avec Israël? Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu pour laisser Dieu nous parler, pour ouvrir nos yeux, parce qu'il faut le reconnaître tel qu'il est. Et cela est possible, ce n'est pas peine perdue. Ce n'est pas un exercice futile, non. C'est quelque chose qui est possible, que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il s'est servi d'Ézéchiel, il s'est servi de toutes ces choses pour réveiller son peuple. Il veut le faire avec nous aujourd'hui. La question c'est, est-ce qu'on va le laisser le faire dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu se révéler à nous? Il veut le faire. Maintenant, qu'allons-nous faire? Allons-nous prendre la bonne décision? Je prie que oui. Je prie déjà pour moi-même que je le fasse. Je prie que chacun d'entre nous prenne la décision de mieux reconnaître Dieu dans tous les aspects de notre vie pour pouvoir toujours le glorifier davantage. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes devant ta parole et nous demandons ton aide. Nous reconnaissons nos faiblesses, là où nous n'arrivons pas à la hauteur de ce que tu demandes, nous reconnaissons notre éloignement. Et Seigneur, nous voulons demander ton secours pour nous ramener. Nous sommes impuissants, nous avons besoin de ton esprit et de son aide. Et Seigneur, que tu nous donnes de te reconnaître tel que tu es, là où tu travailles. Que nous ne passions pas à côté, que nous ne soyons pas aveugles, que nos yeux ne soient pas flous, que notre vision soit claire là-dessus. Et Seigneur, que tu puisses te servir puissamment de nous, parce que nous te voyons, nous te reconnaissons tel que tu es, et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour cela. C'est en ton nom que nous prions. Amen.